Chapitre 3e. De la traversée. Le 10 octobre suivant, nous nous embarquions sur l'impossible. Impossible. Nous étions 8, on s'en souvient. Arthur Beaver, propriétaire du yacht, Pierre Sogol, le chef de l'expédition, Ivan Laps, le linguiste, les frères Hans et Karl, Judith Pancake, le peintre de haute montagne, ma femme et moi. Il avait été convenu entre nous que nous ne dirions pas, dans nos entourages, le but exact de notre expédition, car ou bien on nous aurait jugés insensés, ou plus probablement on aurait cru que nous racontions des histoires pour dissimuler le vrai but de notre entreprise, sur lequel on aurait fait toutes sortes de suppositions. Nous avions annoncé que nous allions explorer quelques îles de l'Océanie, les montagnes de Bornéo et les Alpes australiennes. Chacun avait pris ses dispositions pour une longue absence d'Europe. Arthur Beaver avait tenu à avertir son équipage que l'expédition serait longue et comporterait peut-être des risques. Il congédia et indemnisa ceux de ses hommes qui avaient femmes et enfants et ne garda que 3 casse-cou, sans compter le capitaine, un Irlandais, excellent navigateur, pour qui l'impossible était devenu un second corps. Nous décidâmes tous les 8 de remplacer les marins manquants. Et c'est d'ailleurs la manière la plus intéressante d'employer le temps de la traversée. Nous n'étions pas du tout faits pour être marins. Quelques-uns avaient le mal de mer, d'autres qui ne se trouvaient jamais aussi maîtres de leur corps que pendus au-dessus d'un abîme de roc glacé, ne pouvaient supporter sans malaise les longues glissades du petit bateau sur les pentes liquides. Le chemin des plus hauts désirs passe souvent par l'indésirable. L'impossible, avec ses 2 mâts, marchait à la voile chaque fois que le vent était favorable. Hans et Karl avaient fini par comprendre l'air, le vent et la toile avec leur corps, comme ils comprenaient le rocher et la corde. Les 2 femmes faisaient toutes sortes de miracles à la cuisine. Le père Sogol secondait le capitaine, faisait le point, distribuait les tâches, nous aidait à attraper les tours de main et avait l'œil à tout. Arthur Beaver lavait le pont et veillait sur nos santé. Ivan Laps s'initiait à la mécanique et je devenais un soutier passable. La nécessité d'un intense travail en commun nous avait liés les uns aux autres comme si nous eussions été une seule famille. Et encore, une famille comme on n'en voit peu. Nous formions pourtant un assemblage de natures et de personnages assez disparates et à vrai dire. Ivan Lap se trouvait parfois que Miss Pancake manquait irrémédiablement du sens de la propriété des mots. Hans me regardait d'un mauvais œil quand je prétendais parler des sciences dites exactes, envers lesquelles il me jugeait irrespectueux. Karl supportait difficilement de travailler aux côtés de Sogol. Expression satisfaite du docteur Beaver chaque fois qu'il mangeait du hareng me rendait hargneux. Mais ce cher Beaver, précisément, en tant que médecin et que maître de bord, veillait à ce qu'aucune infection ne se déclarât dans le corps ni dans le psychisme de l'expédition. Il arrivait toujours à point, avec une douce raillerie, lorsque 2 d'entre nous commençaient à se trouver mutuellement des façons déplaisantes de marcher, de parler, de respirer ou de manger. Si j'écrivais l'histoire, comme on écrit communément l'histoire, comme chacun se raconte à soi-même son histoire, c'est-à-dire en notant seulement les moments les plus glorieux pour en faire une ligne continue, imaginaire, je laisserais dans l'ombre ces petits détails et je dirais que les 8 tambours de nos cœurs résonnaient du matin au soir, au matin sous les baguettes d'un même désir. Ou quelques mensonges de ce genre, mais le feu qui chauffe les désirs et qui éclaire les pensées ne durait jamais plus que quelques secondes consécutives. Le reste du temps, on tâchait de s'en souvenir. Heureusement, les difficultés du travail quotidien où chacun avait son rôle nécessaire nous rappelaient que nous étions sur ce bateau de notre plein gré, que nous étions indispensables les uns aux autres et que nous étions sur un bateau, c'est-à-dire dans une habitation temporaire destinée à nous transporter ailleurs.
Et si quelqu'un l'oubliait ?
Un autre aurait vite fait de le lui rappeler. Le père Sogol, à ce propos, nous avait raconté qu'il avait fait autrefois des expériences destiné à
mesurer la puissance de la pensée humaine.
Je rapporterai seulement ce que j'en ai saisi. Sur le moment, je m'étais demandé s'il fallait prendre tout cela à la lettre. Et toujours préoccupé sur mes études favorites, j'avais admiré en Sogol un inventeur de symboles abstraits, une chose abstraite, symbolisant une chose concrète, au rebours de la coutume. Mais depuis, j'ai constaté que ces notions d'abstrait et de concret n'avaient pas grande signification, comme j'aurais dû l'apprendre en lisant Xénophane, Délé ou même Shakespeare. Une chose est...
ou n'est pas.
Sogol donc avait essayé de mesurer la pensée. Non, pas au sens où l'entendent les psychotechniciens et manieurs de tests qui se bornent à comparer.
Il s'agissait de mesurer le pouvoir de la pensée en valeur absolue. Ce pouvoir...
disait Sogol.
Est arithmétique, en effet, toute pensée est une capacité de saisir les divisions d'un tout.
Or, les nombres ne sont pas autre chose que les divisions de l'unité, c'est-à-dire les divisions d'un tout, absolument quelconque. J'observais donc sur moi et sur d'autres
combien de nombres un homme peut réellement penser,
c'est-à-dire se représenter,
sans les décomposer
et sans les figurer.
Combien de conséquences successives d'un principe peut saisir à la fois
instantanément.
Combien
d'inclusion d'espèces en genre.
Combien de relations de
cause à effet, de
fin à moyen, et je ne
trouvais jamais un nombre
supérieur à 4.
Encore, ce nombre 4 correspondait à un effort exceptionnel que je n'obtenais que rarement. La pensée de l'idiot s'arrêtait à 1.
Et la pensée ordinaire de la plupart des gens allait jusqu'à 2.
Parfois à 3.
Très rarement à 4. Je vais, si vous voulez bien, reprendre avec vous quelques-unes de ces expériences. Suivez-moi bien. Il est nécessaire, pour comprendre ce qui suit, de refaire toute bonne foi les expériences proposées. Cela exige une certaine attention, de la patience et de la tranquillité. Et poursuivez donc. Premièrement, je m'habille pour sortir. Deuxièmement, je sors pour aller prendre le train. Troisièmement, je vais prendre le train pour aller à mon travail. 4. Je vais travailler pour gagner ma vie. Essayez d'ajouter un cinquième chaînon et je suis sûr que l'un des trois premiers au moins s'évanouira de votre pensée. Nous fîmes l'expérience, c'était exact. Et même un peu trop généreux. Prenez un autre type d'enchaînement.
1. Le bulldog est un chien.
2. Les chiens sont des mammifères.
3. Les mammifères sont des vertébrés.
4. Les vertébrés sont des animaux. Je vais plus loin, les animaux sont des êtres vivants. Mais voilà, j'ai déjà oublié le bulldog.
Si je me rappelle bulldog, j'oublie vertébré.
Dans
tous les ordres de succession.
Ou de division logique, vous constaterez le même phénomène.
Voilà pourquoi nous prenons constamment l'accident pour la substance.
L'effet pour la cause.
Le moyen pour la fin.
Notre bateau pour une
habitation permanente. Notre corps ou notre intellect pour nous-mêmes et nous-mêmes pour une chose éternelle. Les cales du petit navire étaient remplies de provisions et d'instruments divers. Beaver avait étudié la question des vivres d'un esprit non seulement méthodique mais aussi inventif. 5 tonnes de substances diverses devaient suffire à nous alimenter sainement tous les 8, plus les 4 hommes de l'équipage pendant 2 ans, en admettant que nous ne dussions trouver aucun ravitaillement en route. L'art de se nourrir est une partie importante de l'alpinisme et le docteur l'avait porté à un haut degré de perfection. Beaver avait inventé un potager portatif, ne pesant pas plus de 500 grammes. C'était une boîte de mica, renfermant une terre synthétique où l'on semait certaines graines à croissance extrêmement rapide. Tous les jours, en moyenne, chacun de ces appareils produisait une ration de végétaux verts suffisante pour un homme, plus quelques petits champignons délicieux. Il avait essayé aussi de mettre à profit les méthodes modernes de culture des tissus. Au lieu d'élever des bœufs, on pourrait, se disait-il, cultiver directement des beefsteaks. Mais il n'avait abouti qu'à des installations lourdes et fragiles, et à des produits écœurants. Et il avait renoncé à ses tentatives. Mieux nouveau se passer de viande. Avec l'aide de Hans, Beaver avait d'autre part perfectionné les appareils respiratoires et chauffants dont il s'était servi dans l'Himalaya. L'appareil respiratoire était très ingénieux. Un masque de tissu élastique était adapté au visage. L'air expiré était envoyé par un tube dans le potager portatif, où la chlorophylle des jeunes végétaux, suractivée par les radiations ultraviolettes des hautes altitudes, s'emparait du carbone du gaz carbonique et restituait à l'homme de l'oxygène supplémentaire. Le jeu des poumons et l'élasticité du masque maintenaient une légère surcompression, et l'appareil était réglé pour assurer un taux optimum du gaz carbonique dans l'air inhalé. Les végétaux absorbaient aussi le surplus de vapeur, d'eau expirée, et la chaleur de la laine activait leur croissance. Ainsi fonctionnait, à l'échelle individuelle, le cycle biologique végétal animal, ce qui permettait une économie sensible d'aliments. Bref. On réalisait une espèce de symbiose artificielle entre l'animal et le végétal. Les autres aliments étaient concentrés sous forme de farine, huile, solide, sucre, lait et fromage desséchés. Pour les très hautes altitudes, nous nous étions munis de bouteilles d'oxygène et d'appareils respiratoires perfectionnés. Des discussions auxquelles ce matériel donna lieu et du sort
qu'il eut, je parlerai en temps opportun.
Le docteur Beaver avait autrefois inventé des vêtements chauffants à combustion catalytique interne. Mais après expérience, il avait constaté que de bons vêtements duvetés avec des doublures pneumatiques conservant la chaleur du corps suffisaient pour marcher par les plus grands froids. Les appareils chauffants n'étaient vraiment nécessaires que pendant les bivouacs, et alors on utilisait les mêmes réchauds qui servaient à la cuisine, alimentés par de la naphtaline. Ce corps, facile à transporter, fournit beaucoup de chaleur sous un petit volume pourvu qu'il soit brûlé dans un réchaud spécial, assurant une combustion complète et par conséquent inodore. Cependant, on ne savait pas jusqu'à quelles altitudes notre exploration nous mènerait. À tout hasard, on avait aussi emporté des vêtements chauffants à double doublure, d'amiante platinée, dans laquelle on insufflait de l'air chargé de vapeur d'alcool. Nous emportions aussi, bien entendu, tout le matériel ordinaire de l'alpiniste. Souliers ferrés et clous de toute espèce, cordes, pitons, marteaux, mousquetons, piolets, crampons, raquettes, skis et tout ce qui s'ensuit. Sans compter les instruments d'observation, boussoles, clinomètres, altimètres, baromètres, thermomètres, télémètres, alidades, appareils photographiques et autres. Des armes aussi, fusils, carabines, revolvers, coutelas, de la dynamite.
De quoi affronter, enfin ?
Tous les obstacles prévisibles. Sogol lui-même tenait le livre de bord. Je suis trop étranger aux choses maritimes pour parler des incidents de la navigation qui furent, du reste, peu nombreux et sans grand intérêt. Partie de La Rochelle, nous fîmes escale aux Açores, à la Guadeloupe, à Colon et le canal de Panama, franchi, nous pénétrions dans le Pacifique Sud au cours de la première semaine de novembre. C'est un de ces jours-là que Sogol nous expliqua pourquoi il fallait chercher à pénétrer dans le continent invisible par l'ouest, au coucher du soleil et non par l'est, au lever du soleil. C'est qu'alors, comme dans l'expérience de la chambre chaude de Franklin, un courant d'air froid venant de la mer devait se précipiter vers les couches inférieures, surchauffé de l'atmosphère du mot analogue. On serait ainsi aspiré à l'intérieur. Tandis qu'à l'aube et par l'est, on serait violemment repoussé. Ce résultat était d'ailleurs symboliquement à prévoir. Les civilisations, dans leur mouvement naturel de dégénérescence, se meuvent de l'est à l'ouest. Pour revenir aux sources, on devait aller en sens inverse. Parvenu dans la région qui devait se trouver à l'ouest du mont analogue, il fallait un peu tâtonner.
Nous croisions à petite vitesse et au moment où le disque du soleil allait toucher l'horizon, nous mettions le cap vers l'Orient et nous attendions.
Respirant à peine, les yeux écarquillés et tendus, jusqu'à la disparition du soleil. La mer était belle, mais l'attente était dure. Ainsi, avec chaque soir ces quelques minutes d'espoir et d'interrogation, le doute et l'impatience commençaient à montrer le bout de leur nez.
À bord de l'impossible.
Heureusement, Sogol nous avait avertis que cet tâtonnement nous prendrait peut-être un mois ou deux. On tenait bon. Souvent, pour occuper les heures difficiles qui suivaient le crépuscule, on racontait des histoires. Je me souviens qu'un soir, nous parlions des légendes relatives aux montagnes. Il me semblait, disais-je, que la haute montagne était beaucoup plus pauvre en légendes fantastiques que la mer, ou la forêt, par exemple. Karl expliquait cela à sa façon. Il n'y a pas. de place dans la haute montagne, pour le fantastique, parce que la réalité y est, par elle-même plus merveilleuse que tout, ce que l'homme pourrait imaginer. Peut-on rêver de gnomes, de géants, d'hydres, de catoblés plats qui puissent rivaliser en puissance et en mystère avec un glacier, avec le moindre petit glacier? Car les glaciers sont des êtres vivants, puisque leur matière se renouvelle par un processus périodique dans une forme à peu près permanente. Le glacier est un être organisé avec une tête, qui est son névé, par où il broute la neige et avale des débris de rochers. Tête bien séparée du reste du corps par la rimale, puis un ventre énorme où s'achève la transformation de la neige en glace. Ventre sillonné par des crevasses profondes et par des rigoles, canaux excréteurs du surplus d'eau. Et à sa partie inférieure, il rejette sous forme de moraine les déchets de sa nourriture. Sa vie est rythmée par les saisons. Il dort l'hiver et se réveille au printemps avec des craquements et des éclatements. Certains glaciers se reproduisent même par des procédés qui ne sont guère plus primitifs que ceux des êtres unicellulaires, soit par conjonction et fusion, soit par scission, qui donnent naissance à ce qu'on appelle des glaciers régénérés. Je soupçonne là, disait Hans, une définition de la vie plus métaphysique que scientifique. Les êtres vivants se nourrissent par des processus chimiques, tant que la masse du glacier ne se conserve que par des processus physiques et mécaniques. Congélation, fusion, compression, tiraillement. Très bien, répliquait Karl. Mais vous autres savants qui recherchez justement dans l'étude des virus cristallisables, par exemple les formes de transition du physique au chimique et du chimique au biologique, vous devriez tirer beaucoup d'enseignements. Observation des glaciers. Peut-être la nature a-t-elle fait là une première tentative pour réaliser des êtres vivants par des procédés exclusivement physiques. Peut-être, dit Hans. Peut-être, n'a aucun sens pour moi. Ce qui est certain, c'est que la substance du glacier ne renferme pas de carbone et que par conséquent, elle n'est pas une substance organique. Ivan Laps, qui aimait bien montrer sa connaissance de toutes les littératures, interrompit. En tout cas, Karl a raison. Victor Hugo a remarqué en revenant du Rigi, qui, même à son époque, n'était déjà pas bien haut, que les spectacles des hauts sommets contrarient violemment nos habitudes visuelles, si bien que le naturel y prend des allures de surnaturel. Il prétend même qu'une raison humaine moyenne ne peut pas supporter un tel dérangement de ses perceptions, et explique par cela l'abondance de débiles mentaux dans les régions alpestres. C'est vrai, c'est vrai. Bien que cette dernière supposition soit une bourde, dit alors Arthur Beaver, et Miss Pancake m'a montré hier soir quelques esquisses de paysages de haute montagne qui confirment ce que vous dites. Miss Pancake renversa sa tasse de thé et s'agita maladroitement pendant que Beaver continuait. Mais vous vous trompez quand vous dites que la haute montagne est pauvre en légendes. J'en ai entendu d'assez étranges. Il est vrai que ce n'était pas en Europe. Nous vous écoutons, dit aussitôt Sogol. Pas si vite, dit Beaver. Je vous raconterai volontiers une de ces histoires. Ceux qui me l'ont racontée m'ont fait promettre de ne pas dire d'où elle venait. D'ailleurs, cela importe peu, mais je voudrais la rapporter aussi exactement que possible, et pour cela, il faudra que je la reconstitue dans sa langue originelle, et que notre ami Laps m'aide ensuite à vous la traduire. Demain après-midi, si vous voulez, je vous la dirai. Le lendemain après le déjeuner, le yacht était en panne sur une mer, toujours tranquille. Nous nous réunîmes pour écouter l'histoire. En général, nous parlions entre nous anglais, parfois français, car chacun connaissait suffisamment les deux langues. C'est en français qu'Ivan Laps avait préféré traduire la légende. Et c'est lui-même qui en fit la lecture. Histoire des hommes creux et de la rose amère.
Les hommes creux
habitent dans la pierre. Ils y circulent comme des cavernes voyageuses. Dans la glace, ils se promènent comme des bulles en forme d'homme.
Mais dans l'air, ils ne s'aventurent, car le vent les emporterait. Ils ont des maisons dans la pierre, dont les murs sont faits de trous, et des tentes dans la glace, dont la toile est faite de bulles.
Le jour, ils restent dans la pierre, et la nuit erre dans la glace, où ils dansent à la pleine lune, mais ne voient jamais le soleil. Autrement, ils éclateraient.
Ils ne mangent que du vide. Ils mangent la forme des cadavres. Ils s'enivrent de mots vides.
De toutes les paroles vides que nous autres nous prononçons. Certaines gens disent qu'ils furent toujours et seront toujours. D'autres disent qu'ils sont des morts.
Et d'autres disent que chaque homme vivant a, dans la montagne, son homme creux. Comme l'épée à son fourreau. Comme le pied à son empreinte. Et qu'à la mort, il se rejoint. Au village des 100 maisons vivait le vieux prêtre magicien
Kissé
et sa femme
Houlé Houlé.
Ils avaient deux fils, deux jumeaux que rien ne distinguait, qui s'appelaient Mo et Ho.
La mère elle-même les confondait.
Pour les reconnaître, au jour de l'imposition des noms, on avait mis à Mo un collier portant une petite croix.
À Ho, un collier portant un petit anneau.
Le vieux Kissé avait un grand souci silencieux. Selon la coutume, son fils aîné devait lui succéder. Mais qui était son fils aîné? Avait-il même un fils aîné? À l'âge d'adolescence, Mo et Ho étaient de finis montagnards. On les appelait les deux passe-partout.
Un jour, leur père leur dit « Celui de vous deux qui me rapportera la rose amère, à celui-là je transmettrai le grand savoir. »
La rose amère se tient au sommet des plus hauts pics. Celui qui en a mangé, dès qu'il s'apprête à dire un mensonge.
Tout haut ou tout bas?
La langue lui brûle.
Il peut encore dire des mensonges, mais alors il est prévenu. Quelques personnes ont aperçu la rose amère.
Cela ressemble à ce qu'elle raconte, à une sorte de gros lichen multicolore, à un essaim de papillons. Mais personne ne l'a pu prendre.
Car le moindre frémissement de peur auprès d'elle l'effarouche.
Elle rentre dans le rocher.
Or, si même on la désire, on a toujours un peu peur de la posséder. Et aussitôt, elle disparaît. Pour parler d'une action impossible ou d'une entreprise absurde. On dit, c'est chercher à voir la nuit en plein jour.
Ou c'est vouloir éclairer le soleil pour mieux le voir.
Ou encore, c'est essayer d'attraper la rose amère.
Mo a pris ses cordes, et son marteau, et sa hache, et des crochets de fer. Le soleil l'a surpris au flanc du pic.
Troulé nu.
Comme un lézard parfois, comme une araignée. Il s'élève le long de hautes parois rouges. Entre le blanc des neiges et le bleu noir du ciel. Les petits nuages rapides de temps en temps l'enveloppent, puis le rendent soudain à la lumière. Et voici qu'un peu au-dessus de lui, il voit la rose amère. Brillante de couleurs, qui ne sont pas des 7 couleurs, il se répète sans arrêt le charme que son père lui a enseigné qui protège de la peur. Il faudrait un piton ici, avec un étrier de corde pour enfourcher ce cheval de pierre cabrée. Il frappe du marteau et sa main s'enfonce dans un trou. Il y a un creux sous la pierre. Il brise la croûte de rocher et voit que ce creux a la forme d'un homme. Un torse, des jambes, des bras. Des creux en forme de doigts, écartés comme de terreur. Et c'est la tête qui l'a crevé d'un coup de marteau. Un vent glacé passe sur la pierre. Mo a tué un homme creux. Il a frémi et la rose amère est rentrée dans le rocher. Mo redescend au village, il va dire à son père, j'ai tué un homme creux, mais j'ai vu la rose amère, et demain j'irai la chercher. Le vieux Kissé devenait sombre. Il voyait au loin les malheurs s'avancer en procession, il dit, prends garde aux hommes creux, ils voudront venger leur mort.
Dans notre monde, ils ne peuvent entrer.
Mais jusqu'à la surface des choses, ils peuvent venir.
Méfie-toi de la surface des choses. À l'aube du lendemain,
Houlé, houlé. La mère poussa un grand cri et se leva et courut vers la montagne. au pied de la grande muraille rouge. Les vêtements de Mo reposaient, et ses cordes et son marteau, et sa médaille avec la croix, et son corps n'était plus là.
« Oh, mon fils » va-t-elle crier.
« Mon fils, ils ont tué ton frère. »
Oh, se dresse.
Les dents serrées. La peau de son crâne se rétrécissait. Il prend sa hache et veut partir. Le père lui dit
« Écoute d'abord. »
« Voici ce qu'il faut faire. Les hommes creux ont pris ton frère. Ils l'ont changé en homme creux. Il voudra leur échapper. »
Au sérac du glacier limpide,
il ira chercher la lumière.
Mais à bon coup, sa médaille avec la tienne, va vers lui et frappe. À la tête, entre dans la forme
de son corps. Et Mo
revivra par nous.
N'aie pas peur de tuer un mort.
Dans la glace bleue du glacier limpide, regarde de tous ses yeux. Est-ce la lumière qui joue? Ou bien ses yeux qui se trompent?
Voit-il bien ce qu'il voit?
Il voit des formes argentées,
comme des plongeurs huilés dans l'eau, avec des jambes et des bras. Et voici son frère. Mais ils ont peur de la lumière. La forme de Mo fuit vers la lumière. Elle monte dans un grand sérac bleu. Elle tourne sur elle-même, comme pour chercher une porte. S'élance, malgré son sang qui se caille, malgré son cœur qui se fend, il dit à son sang, il dit à son cœur. N'aie pas peur de tuer un homme. Il frappe à la tête en crevant la glace. La forme de Mo devient immobile. Mo fend la glace du sérac et entre dans la forme de son frère.
Moho.
Le vieux Kissé pleura de larmes. Son visage se déplia.
Mais un doute encore.
Il voulait trancher.
Il dit à Moho, tu es mon seul fils. Ho et Mo n'ont plus à se distinguer.
Mais Moho lui dit avec certitude.
Maintenant je peux atteindre la rose amère. Mo, c'est le chemin. Ho, le geste à faire. Maître de la peur. J'aurai la fleur de discernement.
Et la fleur.
Il eut le savoir.
Thank you. question nous avait beaucoup préoccupés pendant ces jours d'attente. On ne va pas dans un pays étranger pour acquérir quelque chose, sans une certaine provision de monnaie.
Les explorateurs emportent en général avec eux comme moyen d'échange avec d'éventuels sauvages et indigènes toutes sortes de camelotes. Des pacotilles, camouflages, miroirs, articles.
Les paris, rebuts, du concours à l'épine,
bretelles à poulies et
fixes chaussettes, perfectionnées, colles, fichets, crotons, savonnettes au lit.
Vieux fusils, munitions anodines, saccharines, képis, peines, tabac, pipe, médailles et grands corbeaux.
Et je ne parle pas des articles de piété. Comme il pouvait nous arriver au cours du voyage et même peut-être à l'intérieur du continent de rencontrer des peuples appartenant à l'humanité ordinaire, nous étions munis de semblables marchandises pouvant servir de monnaie d'échange. Et dans notre relation avec les êtres supérieurs, du monde analogue, qu'est-ce qui pourrait constituer une monnaie d'échange? Que possédions-nous qui eût réellement de la valeur? Avec quoi pouvait-on payer la nouvelle connaissance que nous allions y chercher? Allons-nous la mendier ou bien devrions-nous l'acquérir à crédit? Chacun faisait son inventaire. Et chacun, de jour en jour, se sentait plus pauvre.
Ne voyant rien autour de lui, ni en lui, qui lui appartint réellement.
Si bien qu'un soir, ce furent 8 pauvres, hommes et femmes, démunis de tout,
qui regardèrent le soleil descendre sur l'horizon.